France Culture.
France Culture, élection municipale 2026. Maire, pourquoi faire ?
Maire, pourquoi faire ? Notre rendez-vous hebdomadaire consacré aux élections municipales s'intéresse ce soir au logement, enjeu majeur pour les élus. Tant les problématiques sont nombreuses, permis de construire, logement social, prix du bâti, mais aussi encadrement des loyers, mixité de la population et accueil des touristes. Nous partons en Bretagne pour évoquer deux situations dans lesquelles le maire joue un rôle déterminant. Le logement touristique, tout d'abord, avec l'exemple de Saint-Malo. La cité corsaire est la première ville de France à avoir limiter le nombre de Airbnb. C'est un reportage de Mathilde Cariou.
Quand on se promène dans la vieille ville de Saint-Malo, difficile de ne pas l'entendre. Le bruit des roulettes sur le pavé.
Un grondement d'orage.
Toute la journée, les valises roulent, montent, descendent les escaliers. C'est devenu insupportable pour les habitants du centre historique.
C'est notre fond sonore, en fait, quand vous ouvrez les fenêtres.
Véronique Deschamps habite ici, intramuros, depuis 1979.
On nous a jamais demandé si on avait envie de vivre dans un hôtel improvisé. Quand vous vivez avec des appartements qui sont transformés en lieu de passage, c'est pas du tout la fréquentation d'un immeuble d'habitation.
Il y a une dizaine d'années, elle a créé l'association Saint-Malo, j'y vis, j'y reste.
Moi, c'est ma ville, je veux qu'elle reste habitée. S'il y avait 3 ou 4 boucheries, il n'y en a plus. Il y avait une charcuterie, il n'y en a plus. Il y avait 4 ou 5 pharmacies, il n'y en a plus qu'une qui se trouve là. Par contre, là où ça augmente, ça va être les biscuiteries, ça va être les boîtes à clés. Et quand vous êtes habitant, vous n'avez pas envie de voir votre ville se transformer en parc d'attractions.
Le petit train de Saint-Malo is very happy to welcome you aboard.
En 2020, Véronique Deschamps a porté ce dossier en justice. Il a donc atterri sur le bureau du maire. À l'époque, Gilles Lurton est en campagne avec une liste LR. Il s'empare rapidement du dossier.
J'ai promis de réglementer la possibilité pour des propriétaires de louer leur logement en courte durée.
Il faut dire que son prédécesseur Claude Renoux avait déjà engagé des mesures. L'obligation pour tous les loueurs de déclarer un changement d'usage de leur appartement. Gilles Lurton, élu, a donc poursuivi dans cette voie.
J'ai pris le nombre de changements d'usage qui avaient été faits pendant l'année qui précède et j'ai dit il n'y aura pas plus de logements loués en courte durée.
Aujourd'hui, il y a 1760 Airbnb à Saint-Malo contre plus de 3000 en 2020.
On a mis un frein à l'explosion qu'il y avait à l'époque. On l'a vraiment stoppé.
En novembre 2024, la proposition de loi sur la régulation du meublé touristique est adoptée. Elle renforce les pouvoirs du maire sur le modèle de Saint-Malo.
Après le logement touristique, on s'intéresse à présent à la question du logement social. Comment est-il attribué? Selon quels critères? Nous avons choisi l'exemple de Guingamp, à une centaine de kilomètres de Saint-Malo. Guingamp, c'est la ville la plus pauvre de Bretagne, avec 28% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Mathilde de Cariou s'y est rendue.
Sur place, nous avons rencontré Nina Le Guen. C'est l'une des dernières habitantes à avoir obtenu un logement social à Guingamp au mois de juin 2025. Il est près du centre-ville dans un immeuble au premier étage.
Et un appartement étroit. Il y a 2 chambres, un grand salon et une cuisine un peu stylée américaine.
68 mètres carrés, 150 euros avec APL pour Nina et sa fille de 16 ans. Avant, elles habitaient dans un appartement privé, 3 fois plus cher et en mauvais état.
C'était un vieux appartement. Le propriétaire, il ne fait jamais des travaux. Comme c'était tout près du truieux, le petit fleuve qui traverse la ville de Guingamp. Il y a beaucoup plus d'humidité, surtout en hiver.
Donc ça faisait beaucoup d'électricité en plus.
Oui, parce que obligé de laisser tout le temps allumer le chauffage.
Pendant 6 mois, Nina et sa fille ont été logées en auberge. C'était le délai maximum, donc la procédure est passée en urgence. Mais pour d'autres demandeurs de logement social, ça peut prendre beaucoup plus de temps, nous dit le maire socialiste Philippe Le Goff.
Plus de 180 demandes depuis le début de l'année pour des affectations dans le parc. Et avec des délais d'attente en moyenne de 20 mois.
Tous les dossiers passent par une commission d'attribution du logement où lui ne siège pas pour des questions d'impartialité. Son rôle, c'est plutôt d'accompagner les habitants pour faire une demande adaptée à leur situation.
C'est-à-dire que parfois, on peut avoir des deltas entre des personnes qui voudraient une maison individuelle, qui veulent un rez-de-chaussée, qui veulent une grande surface, et puis quand on rentre dans leur revenu potentiel, on se dit, ils vont être en danger financièrement parlant parce que les sommes à recouvrir vont être trop élevées par rapport à ce qu'ils ont comme ressources. Donc on a véritablement ce travail de pré-traitement pour pas avoir de refus.
D'autant plus que les habitants restent de plus en plus longtemps dans ces logements.
Parce que le privé, l'acquisition est moins accessible, parce que la tension sur Même le locatif est plus compliqué dans les pièces à fournir, dans les cautions. Donc, on a un parcours résidentiel qui se verrouille et puis de l'accueil de nouveau qui est aussi compliqué.
À Guingamp, plus d'un tiers du parc locatif est du logement social.
Alors, il faut savoir que depuis 25 ans, la loi SRU oblige toutes les communes de plus de 3500 habitants à disposer d'au moins 25% de logement social. En 2020, lors de la précédente campagne municipale, on estimait que 54% des communes concernées ne respectaient pas cette obligation. Écoutez à ce sujet l'analyse de Manuel Domergue, responsable des études à la Fondation pour le logement, ex-Fondation Abbé Pierre, entretien mené par Mathilde Cariou.
Pourquoi est-ce que plus de la moitié des communes de France ne respectent pas leurs obligations en termes de SRU ?
Alors, il y a des communes qui sont en retard, mais qui rattrapent leur retard petit à petit. Donc ça, c'est normal, c'est l'esprit de la loi. Par contre, il y en a qui ne rattrapent pas, quoi, ou qui rattrapent tellement lentement qu'en gros, à ce rythme, elles l'atteindront dans 1000 ans. Donc évidemment, ça, c'est pas satisfaisant. Pourquoi ? Il y a déjà des contraintes objectives. C'est compliqué de faire du logement et de faire du logement social encore plus. Il faut des terrains, il faut des financements, il faut quand même une forme de consensus local avec ses électeurs. Et c'est ça qui explique qu'au-delà des contraintes réelles, il y a aussi parfois un manque de volonté de la part de certains maires. Il y en a qui se disent « si je produis du logement social, mes électeurs, mes administrés vont m'en vouloir ». Parce que faire du logement social, ça veut dire des chantiers. Et ça, quel que soit le type de logement ou même de l'activité du BTP, les chantiers, c'est pas agréable. Ça dure 3 à 4 ans, c'est compliqué. Parfois, ça peut boucher la vue, ça peut artificialiser les sols, ça peut avoir moins d'espace vert. Donc, c'est un peu embêtant, évidemment. Et puis, le logement social, et c'est surtout là que ça coince, en fait, c'est que c'est des ménages plus pauvres, évidemment, par définition, plus souvent des ménages immigrés aussi. Et donc, dans la réaction des riverains et de leurs élus, parfois, il y a un peu de la peur, du rejet des pauvres et des immigrés. Et donc, on voit bien le profil des maires qui sont anti-SRU. C'est des maires qui sont très attentifs à ce genre d'administrés, qui n'ont pas tellement envie d'aider leurs prochains, on va dire.
Dans le reportage que l'on vient d'entendre à Guingamp, Philippe Le Goff dit qu'il ne siège pas à la commission d'attribution du logement social pour ne pas influencer la décision. Ça n'est pas le cas partout. Souvent, le maire a un regard, voire un pouvoir sur l'attribution de ses logements.
Oui, ce n'est pas forcément une bonne idée de donner le pouvoir au maire pour les attributions de logements sociaux. Dans la plupart des communes, c'est des petites communes, et les maires y connaissent, ou en tout cas, il y a une chance qu'ils connaissent, les candidats à l'attribution du logement social. Et donc, quand on connaît quelqu'un, pour lui attribuer une faveur qui est très importante, attribuer un logement social, ça peut durer 40 ans, pendant lesquels vous payez moitié moins que le loyer dans le parc privé. Donc, c'est vraiment des décisions très lourdes, quoi. Si vous connaissez des gens, il y a un risque de favoritisme, tout simplement. Que ce soit conscient ou pas, mais quand vous avez des gens qui viennent taper à votre porte quand on est maire ou adjoint au logement, toute la journée, c'est ça les principales demandes des administrés, c'est est-ce que je peux avoir un logement social ? Vous êtes évidemment tenté d'aider les personnes qui viennent vous voir en disant, là, j'ai été ému par son histoire. Je connais sa famille. C'est quelqu'un qui travaille bien. Parfois aussi, c'est quelqu'un qui vote pour mon parti, qui vote pour ma liste électorale. Évidemment que ça entre en ligne de compte. Il y a eu 1000 exemples par le passé. Il y a aussi un risque que le maire, étant proche de ses administrés, ayant la volonté d'être réélu, n'attribue pas des logements sociaux aux ménages trop pauvres. Parce que avoir quelqu'un qui est au chômage, une famille qui a eu des problèmes dans la vie, des personnes qui sont sans abri, par exemple, avec aussi parfois des addictions, des problèmes de comportement, etc. Enfin, la rue, ça détruit les gens, en fait. C'est pas des très bons demandeurs HLM dans l'esprit de beaucoup d'élus locaux, parfois aussi de bailleurs sociaux. Et donc, c'est pour ça que la loi est venue leur imposer des critères de priorité en fonction de la vulnérabilité des personnes.
Et récemment, vous avez organisé une table ronde sur la place du logement dans la campagne municipale, et un intervenant expliquait qu'il était assez difficile, en fait, d'interpeller les maires ou les candidats sur le sujet. Dans les Hauts-de-Seine, par exemple, seuls 13 candidats avaient accepté de répondre sur plus d'une centaine. Pourquoi est-ce que ça n'est pas un sujet phare dans les campagnes ?
Alors, la première raison, c'est que c'est très technique. Quand on fait une campagne municipale, ça dure 2-3 mois, une campagne dans la plupart des villes. Vous avez 2-3 projets, on va faire une salle des fêtes, on va piétoniser le centre-ville, etc. Rentrer dans l'histoire des arrêtés d'insalubrité, arrêtés de péril, notre service d'hygiène, on va l'étoffer un peu plus. Personne n'y comprend rien et c'est assez normal. Pour les élus locaux également, c'est pas très vendeur parce qu'en fait, il n'y a pas de baguette magique. Ne serait-ce que produire des logements sociaux, ça prend pas mal de temps. Il faut changer parfois le document d'urbanisme, trouver un bailleur, lancer les travaux. Enfin bref, on est vraiment sur plus 10 ans que 2 ans, quoi. Rénover un quartier également, quand il y a de l'habitat insalubre, Là aussi, on est parti sur 15 ans, quoi, voire plus. Hein. Enfin, le, par exemple, une grande copro dégradée à Clichy-sous-Bois, extrêmement emblématique, qu'on a mis en avant quand il y a eu les émeutes il y a 20 ans, ils sont en train de lancer les rénovations et les démolitions des immeubles en ce moment, 20 ans plus tard. Alors que l'État a mis le paquet du paquet sur une ville de 30 000 habitants. C'est quand même, bon, a priori, pas hyper compliqué. Et en fait, si, c'est hyper compliqué. Et donc, quand on est maire et qu'on va être élu pour 6 ans, faire des promesses sur 20 ans, bah, c'est pas très vendeur.
Manuel Domergue, responsable des études à la Fondation pour le Logement, au micro de Mathilde Cariou. Maire, pourquoi faire notre rendez-vous hebdomadaire avant les élections municipales de mars prochain, tous les jeudis à 18h15, à retrouver également sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.